Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de musique classique faite à la main et pour les oreilles. Bonsoir. Beethoven en son temps, le piano. Padabam, pam, 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 padabam, pam, 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 pam. C'était la polonaise opus 89 de Ludwig van Beethoven. Une pièce de bravoure magnifiquement interprétée par le grand pianiste américain Julius Katchen, avec juste ce qu'il faut de panache, d'esprit et de virtuosité. Beethoven l'a dédiée, excusez du peu, à sa majesté Élisabeth, impératrice de toutes les Russies, qui en 1815, lors de sa venue dans la capitale autrichienne pour le fameux congrès de Vienne, avait demandé à rencontrer le célèbre compositeur. Il faut dire que Ludwig est alors à 45 ans, au sommet de sa gloire, une véritable star. Alors des trois temps roboratifs de la polonaise, je vous propose de passer maintenant aux trois temps nettement plus gracieux du menuet, en choisissant parmi les nombreux menuets composés par Beethoven, l'un de ceux qui était devenu à l'époque une véritable rengaine, probablement écrit pour un bal masqué de l'année 1795. Le pianiste russe Mikhail Pletnev nous rappelait les charmes de l'Empire austro-hongrois avec ce menuet en sol majeur particulièrement populaire à Vienne en cette fin de XVIIIe siècle. Et puisque depuis le début de cette preuve par Z, nous nous sommes en quelque sorte installés dans les salons de la capitale autrichienne, continuons de danser avec une Écossaise. Oh, je ne parle pas d'une charmante cavalière venue d'outre-Manche, mais de l'Écossaise à deux temps, une danse rapide qui inspirera également Schubert et Chopin. La dernière œuvre de Beethoven destinée à son instrument fétiche est d'ailleurs une écossaise, écrite en 1825, et qui m'a valu à l'âge de 10 ans une glorieuse mention assez bien au célèbre concours Léopold Bellan, niveau élémentaire s'il vous plaît. À la fois populaires et raffinées, les écossaises vont souvent par 6 ou par 12, comme les œufs. Et c'est pourquoi je vous en propose un petit enchaînement datant de 1806 ou de 1807, on ne sait pas très bien. 2 minutes à peine d'une bonne humeur légère et sautillante. Thank you. prise écossaise nerveuse et bondissante et toute l'agilité du pianiste finlandais Olli Mustonen. Et puisque notre émission de la semaine est tout entière consacrée au piano, passons maintenant de 10 à 20 doigts. Car il n'y a pas que les danses de salon qui sont à la mode en ce début de 19e siècle. Le piano à quatre mains a lui aussi la cote chez les amateurs viennois. C'est ainsi que Beethoven écrit à la demande de l'un de ses mécènes trois marches pour piano à quatre mains. Alors que le Royaume-Uni vient de déclarer la guerre à la France et que l'Europe va bientôt être à feu et à sang, le genre de la marche militaire tente manifestement d'adoucir par la musique le caractère belliqueux des temps. Si les marches pour piano à quatre mains les plus connues sont indéniablement celles de Schubert, j'aime aussi beaucoup celles de Beethoven que j'ai souvent jouées en concert, me plaçant toujours du côté des graves. Voici celle en ut majeure, à la fois martiale et légère, bien sûr marquée du rythme caractéristique de toutes les marches, pom pom pom. Les 20 doigts de Peter Hill et de Benjamin Frith faisaient merveille dans cette marche militaire pour piano à quatre mains, écrite par Beethoven à l'automne 1803. Je voudrais vous parler maintenant de Beethoven avant Beethoven. De Beethoven apprenti, si vous préférez. Celui qui étudie assidûment les préludes et fugues du clavier bien tempéré et à qui son professeur Joseph Haydn fait travailler la fugue dans l'esprit de Jean-Sébastien Bach. C'est à l'âge de 16 ans qu'il compose le prélude que nous allons tout de suite entendre, une page intéressante, quoique peu beethovenienne, interprétée sur une copie d'instrument d'époque par l'excellent claviériste Ronald Brautigam. Alors, auriez-vous reconnu Beethoven si je ne vous l'avais pas annoncé auparavant? N'auriez-vous pas plutôt attribué ce prélude à Jean-Sébastien Bach? Et que dire du prélude en ut majeur, que Ludwig compose 2 ans plus tard comme pour démontrer qu'il maîtrise parfaitement l'art de la modulation? C'est que cette pièce pour orgue parcourt 2 fois de suite en seulement 3 minutes le cycle complet des 12 tonalités majeures, rangées par ordre croissant d'altération, rien à la clé ut majeur, 1 dièse à la clé sol majeur, 2 dièses à la clé ré majeur, 3 dièses la majeur, et ainsi de suite.
Thank you.
L'orgue seul nous fait comprendre comment l'éternité peut évoluer, nous dit Cioran, le célèbre penseur roumain. Nous écoutions le grand organiste britannique Simon Preston, longtemps titulaire à Westminster, interpréter pour nous le deuxième des deux préludes dans les 12 tonalités majeures de Beethoven. Une page pour orgue qui nous rappelle que Beethoven a également pratiqué cet instrument dans sa jeunesse, nommé à 14 ans organiste adjoint à la cour du prince électeur de Cologne, où il impressionne par la qualité de ses improvisations. L'application, le sérieux de Beethoven, se doublait cependant d'un redoutable sens de l'humour dont a souvent fait les frais son entourage. Mais en musique, sans parole, comment faire rire ? Un bon exemple serait le fameux rondo à la hongroise opus 129, avec ses tourbillons de double croche, de gammes et d'arpèges, ses ruptures et ses incessants changements de tonalité. Souvent nommé rondo sur un sou perdu, en raison d'un sous-titre apocryphe, il est publié par l'éditeur et compositeur Diabelli sitôt la mort de Beethoven, alors que ce rondo est en réalité une œuvre de jeunesse composée une trentaine d'années plus tôt. Une parfaite opération commerciale. L'année de sa mort, Beethoven est considéré comme une gloire nationale, et d'autre part, les Viennois raffolent des rondos avec leur entêtant refrain dont on guette avec impatience le retour plus ou moins différé, plus ou moins varié.
Thank you.
L'ébouriffant rondo à la hongroise, également appelé rondo sur un sou perdu, interprété avec une confondante dextérité par le génial pianiste russe Evgeny Kissin. Autre exemple typique de l'humour beethovenien, les variations sur le célèbre chant national anglais « Rule Britannia ». Beethoven n'est jamais allé en Angleterre, mais il en admire l'organisation politique et la démocratie parlementaire, et ses œuvres y sont très appréciées. C'est Thomson, un violoncelliste amateur et éditeur britannique installé à Édimbourg, qui est à l'origine des deux séries de variations que Beethoven écrit en 1803, l'une sur « God Save the King », l'autre sur « Rule Britannia ». Ces variations sont loin d'être de simples variations d'école. Chacune d'entre elles est à la fois singulière, caractérisée, inventive, virtuose et pleine de cet humour caustique si typiquement beethovenien. Je pense notamment à la quatrième variation dans le mode mineur ou encore à la coda de la dernière variation et ses nombreuses modulations surprises. Je dois dire que j'adore ces variations. Et qu'à chaque fois que je les entends, je suis frappé de l'incroyable capacité qu'a Beethoven de varier, de transformer, de métamorphoser n'importe quel matériau, même un thème apparemment aussi peu inspirant que le Rule Britannia. Et vous aurez peut-être reconnu le timbre du pianoforte de Ronald Brautigam, une copie moderne d'un grave de 1819, l'une des marques préférées du compositeur. Du piano solo, nous passons maintenant au piano avec orchestre, avec une véritable curiosité, un concerto pour violon transformé en concerto pour piano. Je m'explique. Vous connaissez sans doute le concerto pour violon en ré majeur de Beethoven, l'un des concertos pour violon les plus joués dans le monde avec ceux de Mendelssohn, Brahms et Tchaïkovski. Beethoven l'écrit en 1806, mais l'année d'après, le compositeur, éditeur et facteur de piano Clementi lui en commande une transcription pour piano et orchestre destinée à mettre en valeur à la fois sa maison d'édition et sa manufacture de piano. L'un des passages les plus surprenants de cet arrangement est la spectaculaire cadence réservée au soliste à la fin du premier mouvement. Une nouveauté dans l'histoire de la musique, puisqu'après une première démonstration de virtuosité pianistique, le soliste enchaîne avec un duo tout à fait inattendu pour piano et timbales. Ce duo de presque 3 minutes est entièrement fondé sur les 5 notes répétées qui constituent la signature rythmique du mouvement jusqu'au retour de l'orchestre pour la conclusion finale. Nous écoutons la fin du premier mouvement, peu de temps avant que l'orchestre ne se taise pour laisser le soliste déployer sa virtuosité, bientôt rejoint par les timbales.
Thank you.
Impressionnante cadence pour piano et timbales, une première dans l'histoire de la musique. C'était la toute fin du premier mouvement de la version pour piano du concerto pour violon en ré majeur de Beethoven. Le pianiste français François-René Duchâble était accompagné par le Sinfonia Varsovia, que dirigeait un chef connaissant particulièrement bien la version originale de ce concerto, puisqu'il s'agissait de l'immense violoniste Yehudi Menuhin. Et pour compléter ce portrait inattendu du génial compositeur à travers une série d'œuvres peu connues destinées à son instrument fétiche, je vous propose de découvrir ce que l'on nomme souvent le concerto pour piano numéro 0, une œuvre composée à Bonn par le jeune Beethoven à l'âge d'environ 14 ans. Ce concerto numéro 0 permet-il d'entrevoir le génie des 5 grands concertos pour piano? À vous de me le dire. C'est en tout cas une œuvre très agréable à écouter, dont la fraîcheur mélodique et la facture se situent dans la lignée du style galant de Jean-Chrétien Bach, à une époque où Beethoven ne connaissait vraisemblablement pas encore les concertos pour piano de Mozart. Alors ce concerto a été retrouvé 60 ans après la mort de Beethoven, mais sans son orchestration d'origine, reconstitué dans l'enregistrement que vous allez entendre maintenant par le néerlandais Ronald Brautigam, que nous avons entendu précédemment interpréter sur instrument d'époque le prélude en fa mineur et les variations sur Rule Britannia. Mais notre pianiste fait maintenant sonner un grand sténouet de concert pour ce final à la fois chantant et insouciant.
Thank you. Thank you.
le final du concerto pour piano numéro 0 de Beethoven, sa toute première œuvre orchestrale, une œuvre composée vers l'âge de 14 ans. Ronald Brautigam, sur un piano moderne cette fois, était accompagné par l'orchestre symphonique de Norrköping sous la direction d'Andrew Parrott. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec Théo Friconeau. Chef opérateur du son, Guillaume Roux. À la semaine prochaine.